Mana Ono, salam. Je suis Simbak et vous écoutez actuellement le podcast Malabar. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter Maïe Rami Prod, qui a monté ce nouvel épisode. Entrepreneur basé en France, il est disponible pour vous accompagner dans tous vos projets vidéo et photo. Retrouvez ses contacts dans le lien de l'épisode. Malabar, c'est le premier podcast qui vous fait découvrir Madagascar autrement. À travers les expériences de mes invités, je vous emmène à la découverte de ce pays qui regorge non seulement de richesses, j'ai nommé la veine de Madagascar, mais aussi et surtout d'une génération fantastique qui veut aider le pays à se développer. Dans chaque épisode, vous découvrirez le parcours de mon invité, ses expériences et son regard porté sur le pays. Alors pour suivre toute l'actualité de Malabar, n'hésitez pas à vous rendre sur malabar.fr ou à suivre notre Instagram. Et maintenant, je laisse place à ma conversation avec mon invité du jour. L'invité d'aujourd'hui s'appelle Rad Razonarpour. Je vais être très transparente avec vous. Au début, j'étais très dubitative pour le recevoir sur le podcast. Mais comme tout vendeur, Raz a su vendre son produit et m'a fait un très beau pitch en amont. Son entreprise fait partie d'un secteur dont on ne parle pas beaucoup à Madagascar, mais beaucoup ailleurs, la tech. Alors, vous le savez, le plus important pour moi est de créer de la valeur ajoutée pour Madagascar et surtout d'améliorer la vie des locaux. Alors, en quoi la tech à Madagascar peut faire tout ça? Eh bien, je vous invite à écouter l'épisode parce que Raz l'explique très bien. Bonne écoute! Bonjour Raz, comment vas-tu?
Bonjour, je vais très bien, merci.
Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui avec moi. Alors j'avoue qu'avant de faire l'épisode, j'étais un peu dubitative, mais tu as su me convaincre. Et je suis ravie que tu sois là aujourd'hui avec moi pour que tu expliques ta société, les intérêts pour le peuple malgache, parce qu'au final, c'est ce qui m'intéresse. Donc je te laisse d'abord te présenter, donc nous dire où est-ce que tu habites, quel âge tu as et depuis quand tu habites à Madagascar.
D'accord, donc comme je l'ai dit, je m'appelle Raz, j'ai 41 ans, j'habite à Madagascar dans un quartier, enfin dans la capitale de Madagascar, Tana.
D'accord.
Dans un quartier qui s'appelle Ivanch.
D'accord.
J'ai toujours habité à Madagascar depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu l'occasion d'aller à l'étranger, mais voilà, j'ai choisi de rester ici, du moins jusqu'à maintenant.
Et tu as eu l'occasion de voyager dans quel pays?
J'ai fait un peu l'Europe, j'étais en France, j'étais en Italie, j'ai fait la Chine, la Thaïlande, l'Afrique du Sud, l'Ouganda, le Kenya, Maurice, voilà.
Beaucoup, beaucoup de pays, d'accord. Et qu'est-ce qui t'a fait revenir à Mada alors? Après tous ces voyages.
Mais en fait, aussi invraisemblable que ça puisse paraître, moi, je suis convaincu, enfin, du moins, je fais partie des gens qui sont convaincus que Madagascar, en fait, c'est le plus bel endroit de la Terre, malgré tous les problèmes qu'on a ici. Il y a quand même une certaine qualité de vie qui n'existe pas ailleurs. Et c'est surtout une qualité de vie qui est liée à une certaine notion de liberté. Où déjà, quand on est à Madagascar, on est chez nous. Et donc, c'est quelque chose qui est très important, je pense, surtout pour les gens qui habitent dans des îles. Et puis, il y a une certaine forme de solidarité qui, je pense, n'existe pas forcément ailleurs.
D'accord. Et aujourd'hui, tu as cofondé une entreprise avec un ami à toi. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire comment s'appelle l'entreprise et quelle est la mission de cette entreprise?
Donc, l'entreprise s'appelle Manouf, c'est une entreprise, c'est une start-up en fait, c'est une toute petite boîte qu'on a fondée il y a un peu plus d'un an. Notre activité, c'est de développer des applications mobiles et web. L'objectif est très, très simple, c'est apporter de la technologie à Madagascar, de la technologie qui existe déjà ailleurs, pour faciliter la vie des gens, la vie de tous les jours. Par exemple, pour acheter des choses, faire de la vente en ligne, pour réserver des places, etc., etc.
D'accord. Et comment t'es venue l'idée de créer cette entreprise?
En fait, Mon ami, qui est le fondateur principal de l'entreprise, a déjà une autre entreprise qui travaille dans le secteur des nouvelles technologies, de la télécommunication. Donc, il voulait diversifier un peu ses activités vers le développement d'applications. Et moi, en fait, par rapport à mon parcours, j'ai constaté que, voilà, nous avons à Madagascar raté la révolution industrielle. Par contre, la révolution numérique, c'est quelque chose qui est à notre portée, parce que voilà, il y a Internet, et ça permet à tout le monde d'avoir de l'information, ça permet à tout le monde de se former, ça permet à tout le monde d'avoir accès à la technologie. Donc aujourd'hui, c'est une opportunité que Madagascar doit saisir. C'est ça, c'est la révolution numérique. C'est comment faire en sorte que des choses qui existent ailleurs puissent exister à Madagascar. Et ça, comme voilà, je pense que c'est assez courant maintenant de le savoir. C'est que aujourd'hui, on peut créer quelque chose à partir de rien, à partir du moment où on a un marché qui peut répondre aux produits qu'on offre.
D'accord, d'accord. Et concrètement, pour avoir un peu les étapes de la création de ta startup à Madagascar, concrètement, les étapes quand tu crées une startup, c'est lesquelles ? Une fois que tu as ton idée, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu dois faire ?
Dans une startup, en fait, c'est un peu particulier. C'est pas comme dans les entreprises entre guillemets traditionnelles. Dans une startup, on trouve une idée. On essaye de fabriquer un produit, ce qu'on appelle un MVP, assez rapidement pour pouvoir tester le marché. Et à partir de là, on continue la conception, on finalise, on complète avec des fonctionnalités qu'on trouve utiles. Et là, on vend le produit. Ce qui fait que concrètement, on part d'une petite structure, voire une toute petite structure, où tout le monde fait tout, en fait. Dans une startup, il n'y a pas forcément de hiérarchie. Ça fonctionne quasiment à l'horizontale. Chacun doit faire beaucoup de choses parce que, voilà, déjà, il y a peu de monde. Et il faut tout apprendre parce que, voilà, on parle de technologie. C'est des choses qui viennent d'ailleurs, forcément. Et du coup, au départ, on n'a pas forcément une connaissance suffisante. Donc, il faut apprendre. Tester, corriger. Et donc, c'est un peu ça, le parcours. Tous les jours, on doit se former, on doit s'informer, on doit tester. Et le plus important, c'est de pouvoir mettre en place le plus rapidement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le MVP, et de le mettre sur le marché.
D'accord. Et quand on s'associe, généralement, on dit toujours qu'il faut s'associer avec quelqu'un qui a des compétences que nous, on n'a pas. Qui a des profils différents, c'est-à-dire il peut y en avoir un plus créatif, l'autre axé plus business, etc. Toi, si par exemple tu devais donner un peu ton type de profil, toi tu serais quel type de personne ?
Ouais. Mais moi j'ai toujours, en fait, j'ai comme devise think less, do more. Ça peut paraître très naïf, mais je pense que le plus important, c'est de faire. Ensuite, il faut toujours un certain niveau de réflexion quand on fait des choses. Mais en fait, la réflexion, c'est quelque chose qui reste en nous. Par contre, quand on fait quelque chose, ça, à ce moment-là, ça devient plus concret. Les gens peuvent tester, les gens peuvent goûter, et surtout, ils peuvent donner un feedback pour dire si ce qu'on a fait, ce qu'on a créé est bon ou pas, et si ça correspond à ce qu'ils recherchent, à leurs besoins. Tu disais tout à l'heure, généralement, on pense que entre associés, il faut des compétences complémentaires. Je suis pas forcément dans cet état d'esprit. Moi, je pense que les cofondateurs d'une entreprise, surtout d'un startup, c'est des gens qui déjà croient au projet. Ça, c'est très important, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est difficile, on commence de rien, il faut tout apprendre. Donc la compétence et les connaissances, en fait, ça s'acquiert en cours de route. Donc même si au départ on n'a pas forcément les compétences nécessaires, on essaye de les acquérir petit à petit. Donc c'est pas forcément une question de complémentarité de compétences ou de connaissances, c'est plutôt une question d'unicité de vision. Et surtout, il faut qu'il y ait de la motivation derrière.
D'accord, d'accord. Et concernant le marché, tout à l'heure, tu disais qu'il était important de bien connaître son marché, de toujours apprendre, etc. Est-ce que tu penses que, par exemple, Madagascar, c'est un lieu où il faut vraiment connaître le marché pour pouvoir se lancer? Ou alors tu penses que n'importe qui, demain, peut venir et lancer une entreprise?
Mais écoute, c'est important de connaître le marché. Maintenant, connaître le marché de manière théorique, c'est pas forcément ça dont on a besoin. On peut faire des études de marché pour essayer d'avoir une idée sur le comportement de marché, etc. Maintenant, le moyen le plus efficace de comprendre le marché, c'est de le tester. C'est de mettre en vente des choses, des produits, des services, et de savoir en fait écouter la réaction du marché le plus rapidement possible et le plus fidèlement possible. Ce qui se passe, c'est que le monde des nouvelles technologies à Madagascar, c'est un monde très nouveau où voilà, il n'y a pas de données, il y a eu très peu de recherches qui ont été faites sur ça. Donc aujourd'hui, quand on veut construire quelque chose, quand on veut créer quelque chose, on crée d'abord et puis on lance quoi. Voilà, on se lance. C'est quelque part, on plonge un peu dans le vide, mais c'est un peu ça, un peu l'esprit startup.
D'accord, d'accord. Pour revenir un peu à Manouv, est-ce que tu peux nous parler un peu du nombre d'employés que vous avez aujourd'hui et les types de profils avec qui vous travaillez?
Comme je l'ai dit, c'est une toute petite structure. On est 5 dedans. Maintenant, on travaille avec des équipes externes pour le développement, pour la communication, etc. Mais la Manouv en soi, la structure est toute petite. Et donc, à partir de là, comme je l'ai dit déjà aussi, je vais me répéter tout le temps, tout le monde doit faire tout. Donc, en termes de profil, c'est assez varié. Mais au final, c'est pas ce qui importe. C'est pas ce qu'on faisait avant, en fait, qui est important dans une startup, c'est ce qu'on fait maintenant et ce qu'on est capable de faire un peu plus tard.
Tout à fait. Mais après, c'est le début. Toute startup commence avec très peu d'employés et puis ça grossit au fur et à mesure. Mais t'as quand même, dans une startup, j'imagine que t'as quand même, quand tu recrutes quelqu'un, un début de fiche de poste qui te permet de savoir ce que la personne va faire un minimum, même si après elle est polyvalente.
C'est ce qu'on essaye, c'est ce qu'on a essayé, mais la réalité a fait que c'est pas forcément le cas aujourd'hui. Par exemple, au tout début, on avait on l'a toujours, hein, ce projet sur le tourisme, et on a recruté quelqu'un qui a de l'expérience dedans. Mais la vie de start-up a fait que on a eu un changement de priorité, du coup. La personne travaille maintenant sur un autre produit qui n'a rien à voir avec le tourisme. Mais voilà, quoi, c'est comme ça que ça marche.
Et est-ce que ce type de produit, les gens sont facilement animés, motivés par, comprennent le sens du produit, ou est-ce que tu sens, que ce soit toi ou ton ami qui est cofondateur, que vous avez du mal à onboarder les gens?
C'est ce qu'on croit au début, par exemple, les trois derniers matchs de l'équipe nationale malgache, Baria. En fait, la fédération malgache de football a travaillé avec nous, en fait, pour la vente de billets. Et donc, on a mis en place la vente en ligne de billets pour des matchs de foot. Et on a constaté que, en fait, 40% des gens ont acheté des billets en ligne, tandis que 60% ont acheté dans des guichets. Donc, ça veut dire que, quelque part, c'est quelque chose qui n'est pas forcément inaccessible pour les Malgaches. Une autre statistique, aujourd'hui, à Madagascar, il y a environ 3 millions d'abonnés Facebook. Qui aurait pu imaginer ça il y a 5 ans? C'est quelque chose d'assez inimaginable. Mais parmi ces abonnés, il y a de tout. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des grands-parents. Donc, À partir du moment où on arrive justement à comprendre l'expérience utilisateur, mais on peut mettre en place des produits technologiques qui est accessible à tout le monde.
Tout à fait, tout à fait. Et sur le long terme ou moyen terme d'ailleurs, quels sont vos objectifs avec Mano?
Mais les objectifs, c'est déjà essayer de lancer tous les produits qu'on a sous la main aujourd'hui, une bonne dizaine d'applications. On va essayer de lancer le maximum cette année. Et puis voilà, on fonctionne année par année pour l'instant. On essaie de faire bien avec les produits qu'on lance. Et puis on verra l'année prochaine. C'est très court terme comme vision. Mais on est convaincu que voilà, c'est des choses qui vont marcher, que les gens vont adopter. Maintenant, le travail justement, c'est de faire en sorte que les produits qu'on lance correspondent voilà aux besoins des gens et que on puisse faire en sorte que les gens trouvent une expérience utilisateur qui leur convient.
D'accord, parfait. Et pour en revenir à toi, Rad, ton métier en tant que cofondateur d'une start-up, la vision, etc., comment tu te sens en tant qu'entrepreneur, enfin, cofondateur, est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu t'épanouis dans cette activité?
Je crois que la pire des choses à faire dans la vie, c'est faire des choses qu'on n'aime pas. Ça devient un enfer à ce moment-là. Donc voilà, si je suis encore là aujourd'hui, ça veut dire que c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose qui me passionne. Maintenant, encore une fois, on doit apprendre tous les jours. On doit consacrer beaucoup de temps et beaucoup d'efforts pour ça, pour pouvoir avancer. Mais voilà, ça c'est un conseil que je donne aux gens. Enfin, si je peux me permettre de le faire. Il faut arrêter de faire des choses qu'on n'aime pas, même si voilà on se dit oui on n'a pas le choix parce que on a des factures à payer, parce que voilà il y a des conséquences après, on risque de pas trouver de travail. Non, il faut pas s'enfermer dans cette espèce de prison. Il faut oser, il faut avoir l'audace de faire ce choix et de faire ce qu'on aime quoi.
D'accord. Et la dernière question que je voulais te poser avant de passer à mes trois dernières questions, c'est au niveau du recrutement. Alors, je sais que vous êtes une petite structure, mais il y a beaucoup de cofondateurs d'entreprises à Madagascar qui m'ont parlé de la pénurie de compétences. Est-ce que toi, c'est un problème que tu vois, auquel tu as déjà été confronté, ou alors tu n'as pas encore eu cette situation en face de toi?
Oui, bien sûr. C'est une situation, enfin je sais pas, c'est un peu bizarre parce qu'effectivement, et c'est pas uniquement dans la boîte dans laquelle je travaille aujourd'hui, mais même avant dans les autres organisations dans laquelle je travaillais, bizarrement quand on fait des annonces, enfin des offres d'emploi, on reçoit beaucoup de candidatures, mais au final il y a très peu de candidats qui voilà correspondent au profil recherché. Peut-être parce que les bons sont déjà pris et que voilà ils veulent pas faire le choix de changer. Je sais pas, peut-être.
D'accord. Pour terminer, j'avais trois petites questions pour toi. La première, qu'est-ce qui te retient aujourd'hui à Madagascar? Qu'est-ce qui t'anime?
Qu'est-ce qui m'anime? La vie ici, c'est Madagascar, encore une fois, pour moi. D'autres gens peuvent dire le contraire, mais en tout cas, pour moi, Madagascar, c'est le plus bel endroit de la Terre. Ici, on peut tout faire, malgré tout ce qu'on peut penser. On peut avoir une qualité de vie qu'on ne peut pas avoir ailleurs. Et surtout, encore une fois, on peut avoir une certaine liberté qui n'existera jamais nulle part ailleurs.
D'accord. La deuxième question, celle-là, elle s'adresse pas forcément à des entrepreneurs, mais à des gens comme moi qui, par exemple, n'ont jamais vécu à Madagascar. Quels sont tes conseils pour avoir une vie épanouie à Madagascar?
Pour avoir une vie épanouie à Madagascar, déjà, il faut trouver quelque chose qu'on aime. Et s'investir dedans. Il y a beaucoup d'opportunités à Madagascar parce que, voilà, encore une fois, c'est un pays pauvre, c'est un pays sous-développé. Il y a très peu d'infrastructures, il y a très peu de services. Et donc, finalement, en fait, ça offre beaucoup d'opportunités puisque tout est à faire, finalement. Donc, à partir de là, des personnes comme toi souhaitent revenir à Madagascar et s'installer ici, il faut prendre le temps de bien chercher ce que tu aimes, en fait, qu'est-ce que tu aimerais faire. Et à partir de là, je pense que tu pourras trouver assez rapidement une idée de est-ce que tu vas intégrer une entreprise, est-ce que tu vas créer ta propre boîte, etc., etc.
D'accord. Et la dernière question, c'est si tu avais un message à diffuser, un message à partager aux auditeurs.
Aux auditeurs, je pense que voilà, mon message il est simple. Il faut faire quelque chose pour le pays. Faire quelque chose pour le pays, ça veut pas dire donner gratuitement. Ça veut pas forcément dire faire des œuvres sociales. C'est bien, y a pas de mal à ça. Mais si ce qui crée l'impact en fait, c'est surtout de faire en sorte que les gens soient autonomisés. Que les gens trouvent des choses qui les aident dans leur vie de tous les jours. Ça peut être sous la forme de produits, de services, de conseils, de formations et de plein de choses. Mais le plus important au final, c'est il faut que tous les Malgaches participent au développement du pays, chacun un peu à sa manière.
D'accord, parfait. Mais écoute, merci beaucoup pour ton témoignage, Raj, et on te souhaite une très bonne continuation avec Manu.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Ça y est, l'épisode est terminé, et merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité de Malabar, n'hésitez pas à vous rendre sur le site malabar.fr ou sur Instagram, je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Malabar est toujours à la recherche d'expériences insolites. Alors si vous connaissez quelqu'un ou si vous-même souhaitez partager votre histoire sur Malabar, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn. À bientôt pour un nouvel épisode de Malabar.